Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Cette semaine, au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, se rassemble la conférence des religieux et religieuses de France. C'est un rassemblement qui est tout à fait important cette année, puisque c'est la fin du deuxième mandat de Sœur Véronique Marcon à la présidence de la COREF. Mais c'est l'occasion pour nous de s'interroger sur le rôle des religieux et religieuses dans la vie de l'Église, et en particulier dans la vie des paroisses. On a dans notre diocèse des communautés religieuses qui sont présentes, très présentes dans certains lieux, impliquées dans la vie de paroisse, dans la vie de la paroisse. Qu'est-ce que ça pose comme question en termes, peut-être d'organisation, voire même de gouvernance ?
Alors, avant d'aborder, de vous répondre directement sous l'angle de ce qu'ils font et questions d'organisation, de gouvernance, la vie religieuse et plus largement la vie consacrée, dont fait partie la vie religieuse, c'est d'abord un état dans l'Église avant d'être une activité. C'est une présence particulière de baptisé dans l'ensemble de l'Église qui a une fonction par ce qu'ils sont, ce qu'elle est, la vie consacrée, avant d'avoir une fonction par ce qu'ils font, par ce qu'elle fait. Et donc la mission et le rôle de la vie consacrée, par le simple fait d'exister dans l'Église, est de faire signe, est un signe prophétique de ce qui est l'état, l'identité profonde de tous les baptisés, c'est-à-dire d'être tourné vers le Seigneur, d'être consacré à Dieu, d'être engagé dans une fraternité qui dépasse les liens humains de choix individuels, d'affection, d'amitié, de conjugalité, etc., etc. Elle est une communauté de frères, de sœurs, qui, ensemble, se tournent vers le Seigneur et s'entraident à cheminer vraiment dans un tout à Dieu qui est tout à tous lui-même. Voilà. Et ça, c'est la vocation de tous les baptisés, c'est la vocation de toute l'Église. Et la vie consacrée, elle est dans l'Église, le signe de cette vocation universelle à la sainteté, de cette vocation de tous à la sainteté. Ensuite, dans la vie consacrée, il y a beaucoup de formes de vie consacrée possibles, et notamment les religieux et religieuses. Et la COREF qui se rassemble ces jours-ci en Assemblée Générale à Lourdes, comme elle le fait tous les 3 ans, concerne, à l'intérieur de la vie consacrée, les religieux et les religieuses. À l'intérieur de ces religieux-religieuses, il y a 2 grandes lignes de formes possibles, les contemplatifs et les apostoliques. Les contemplatifs, comme le nom l'indique, c'est le Carmel, les bénédictines, les moniales dominicaines et que sais-je. C'est une communauté de frères, de sœurs qui sont dans une clôture, dans une abbaye, dans un couvent, un monastère, et qui met au cœur de son activité, pour le coup, le fait d'être en contemplation, de creuser vraiment alors, la relation avec Dieu et la recherche de Dieu. Voilà. Ensuite, les apostoliques se définissent par un apostolat, c'est-à-dire une activité. Alors, beaucoup des congrégations religieuses présentes à Lourdes ces jours-ci ont été fondées au XIXe siècle autour de l'apostolat, soit de l'éducation, soit de la santé, avec des hôpitaux, et puis des écoles, et puis etc. Voilà. Et donc, cette vie religieuse, elle a tout son sens désormais, maintenant, pour répondre à votre question, dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos diocèses, et parce qu'elle est, et on a la chance dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes d'avoir 6 communautés contemplatives, 1 communauté de moines bénédictins, 4 communautés contemplatives à Lourdes, plus les sœurs de Bethléem à Saint-Pé-de-Bigorre, ce qui est une grande richesse pour un diocèse. Évidemment, c'est rare d'avoir 6 communautés contemplatives dans un diocèse. En tout cas, dans un diocèse comme le nôtre, de la taille du nôtre. Bon. Et puis, foultitude de communautés apostoliques qui ont fondé les écoles catholiques et qui sont engagées, notamment autour de Lourdes, dans toutes sortes d'apostolats, mais aussi dans les paroisses. Je pense à Bagnères, par exemple, où il y a les carmélites apostoliques, précisément, qui sont engagés dans des œuvres diverses de catéchèse, de pastoral des jeunes, de santé, d'accompagnement de ceci, de cela, etc. Et donc, c'est évidemment des services formidables que ces personnes, que ces religieux, religieuses rendent là où elles sont, et qui permettent de soutenir une des 3 missions de toute communauté chrétienne, soit l'annonce de la foi par les écoles, soit le service de la charité par les œuvres de charité qu'elles accomplissent, soit la formation, parce qu'il y a aussi des congrégations qui servent vraiment la vie spirituelle, la formation de la foi. Bon, voilà. Et donc, c'est de grands services qu'elles rendent, mais leur raison d'être, ce n'est pas d'abord le service qu'elles rendent, mais c'est d'abord la consécration et le signe qu'elles offrent de la vocation de tous.
Souvent, quand on parle des vocations, on parle de la vocation presbytérale, mais la vocation à la vie religieuse, qu'elle soit contemplative ou apostolique, ça, c'est quand même, c'est aussi un sujet. Comment on appelle les jeunes à cette vie-là ?
Eh bien, j'ai envie de dire, elles s'appellent toutes seules. C'est-à-dire que des frères et des sœurs donnent envie à des jeunes de leur ressembler, de les rejoindre. Et c'est cela qui va donner la vocation, parce que le désir que Dieu a mis dans le cœur d'un jeune de consacrer sa vie avec d'autres frères et sœurs va croiser l'expérience, la manière concrète dont quelques-uns l'ont fait ou le font depuis des siècles ou depuis plusieurs décennies. Et selon les circonstances, ce que Dieu met dans le cœur de quelqu'un, eh bien, ça va être appelant, ça va faire tilt, ça va dire, ben oui, c'est bien sûr, c'est là qu'il faut que je sois. Et donc, c'est ces communautés qui sont appelantes, qui vont rendre très concret un désir que le Seigneur a mis dans le cœur de quelqu'un.
Voilà. Alors, Monseigneur, dans quelques jours ou dans quelques semaines, le 13 décembre prochain, vous rendrez à la cathédrale Notre-Dame de Paris avec toute une délégation diocésaine pour assister, célébrer la béatification du Père Pascal Vergès. C'est un prêtre de chez nous, né dans le Val d'Azun à Aucun, qui a été prêtre et qui est mort en martyr de la foi dans un camp de travail nazi en 1944. Cette semaine, Monseigneur Perrier a donné une conférence à la Maison Saint-Paul à Tarbes pour commencer à mettre dans la tête de tous les diocésains cette vie du Père Pascal Vergès, du bienheureux Pascal Vergès, de cette vie donnée. Comment vous vous préparez à cette béatification et d'abord à cette conférence? Vous avez peut-être vous-même appris des choses sur cette vie donnée.
C'était un moment très fort que le temps de cette conférence à la Maison Saint-Paul, où il y avait d'ailleurs beaucoup de monde, autour de Monseigneur Perrier et du Père Vergès. Je me disais, on en a deux pour le prix d'un, parce que on avait la vie du Père Vergès et les raisons pour lesquelles l'Église décide d'en faire un bienheureux, mais on avait aussi le témoignage donné par Monseigneur Perrier lui-même, et notamment l'émotion à certains moments de son exposé, où il était extrêmement touché de partager quelque chose de la vie et du témoignage rendu par le Père Pascal à la fin de sa vie et dans son martyr. Donc un très très beau moment, c'est une première manière de s'y préparer. Pour s'y préparer aussi, il y a l'édition d'un signé avec une prière que l'on peut préparer ou dire seul ou en groupe de prière ou en communauté de paroisse pour nous sensibiliser, nous préparer à cet événement, cet événement diocésain important. C'est le premier enfant du diocèse à être élevé à l'honneur des autels, comme on dit, en étant béatifié depuis Sainte Bernadette. Et donc c'est vraiment un moment extrêmement fort et extrêmement important pour notre diocèse. Et donc ce signé de prière. Évidemment, le 13 décembre, on sera un certain nombre à Notre-Dame de Paris. Dans le même temps, il y aura une célébration, soit à Argelès, soit à Aucun, je ne me souviens plus exactement tout de suite, à Aucun, qui est son village d'origine, dans le Val d'Azun. Et puis, au printemps, il y aura aussi de nouveau une conférence de Monseigneur Perrier, puis une autre célébration. Ce sera le 25 avril, de nouveau sur la paroisse d'Argelès et Aucun. Donc, déjà, il y a ces événements-là. Puis, cet événement sera marqué au moment de la messe de clôture de l'année jubilaire à la cathédrale, le jour de l'Épiphanie, de la même façon qu'on avait ouvert l'année jubilaire Épiphanie 2025. On la clôturera à l'Épiphanie 2026, et dans le courant de cette célébration, il y aura un moment, mention de cet événement important pour nous. Et puis, on va lire des choses, on va apprendre à connaître l'abbé Pascal Vergès, qui est un prêtre humble, modeste, qui lui-même n'avait pas le sentiment de faire grand-chose d'extraordinaire, que sa famille, qui était présente à la conférence de Monseigneur Perrier cette semaine et qui viendra à Paris le 13 décembre. Ils avaient entendu parler du cousin ou de l'oncle Pascal Vergès, mais ils savaient qu'il était mort dans les camps en Allemagne, et puis point barre. Et or, il a une manière de vivre et de mourir qui fait que l'Église reconnaît en lui un bienheureux et sans doute un saint un jour.
Justement, dans la conférence de Mgr Perrier, ce qui était frappant, c'est qu'au fond, au fur et à mesure qu'il déroulait la vie du bienheureux Pascal Vergès, on se disait, eh bien, finalement, il a juste, entre guillemets, juste vécu en chrétien.
C'est, et en prêtre. Et c'est vraiment très très fort. Alors, Mgr Perrier, passé du temps à contextualiser ce qui était le cœur de sa conférence, la dernière année de vie du Père Pascal, qui est l'année où, justement, il a vécu le don de sa vie dans son ordination, et bien dans le contexte que l'histoire qui a vu l'avènement du nazisme et puis l'invention du STO, et bien voilà, les circonstances ont fait que, quand il est entré au séminaire et qu'il a été ordonné prêtre, c'était pas prévu comme ça. Et sans doute se voyait-il vicaire, puis curé, puis des choses comme ça dans le diocèse. Bon, ben les circonstances de la vie ont fait que son ministère a été appelé à se vivre autrement, et le don de sa vie, enclenché à l'ordination, ben il a été fait de manière beaucoup plus rapide et violente que pour la plupart des prêtres. Et voilà, et donc Mgr Perrier s'est employé à décrire le contexte historique, le contexte en France, d'un renouveau vraiment missionnaire. C'est quand 43, c'est l'écriture d'un livre qui a beaucoup marqué en France, France pays de mission, et qui a enflammé les cœurs de mouvements d'action catholique, de fondations, de sociétés de prêtres comme la Mission de France, par exemple, et donc qui a enflammé le cœur de prêtres zélés, missionnaires, et qui, quand des jeunes ont été réquisitionnés pour partir faire tourner les usines en Allemagne, voilà, encouragés par celui qui plus tard deviendra Mgr Rodin, on dit, ben, il faut que des prêtres les accompagnent, et donc on y va, quoi. Et sans trop se poser de questions, donc, dans une manière ordinaire de concevoir leur ministère, dans la logique de ce qu'ils avaient donné de leur vie au moment de leur ordination. Et voilà, sans avoir conscience qu'ils étaient en train de devenir des saints, sans aucun doute.
Merci beaucoup, Monseigneur. Monseigneur, dans quelques jours, nous vivrons une séquence importante sur les ondes de Radio Présence, puisque ce sera le radiodon. Alors, si vous voulez bien, on va terminer cet entretien cette semaine avec peut-être quelques mots de votre part pour encourager tous les acteurs, mais aussi les auditeurs de Radio Présence, puisque, encore une fois, on le sait, c'est grâce aux auditeurs que la radio peut exister. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager les uns et les autres ?
Et c'est aussi, justement, que c'est aussi grâce à la radio que les auditeurs ont accès à la communauté de l'Église. Pour certains d'entre eux, c'est peut-être même un des seuls liens avec la communauté ecclésiale, régulier, quotidien, hebdomadaire. Et donc, c'est un outil de proximité, de communion, et un outil de mission qui est extrêmement important, et que je découvre en arrivant comme évêque dans ce diocèse, et que j'apprécie énormément. J'ai été très touché au moment de visite pastorale dans des villages tout petits, de rencontrer des personnes isolées chez elles, qu'on est allé visiter avec l'équipe de la paroisse, et qui me disaient « Ah, ça me fait un bien fou, Monseigneur, vous savez, la radio, et puis j'aime beaucoup vous entendre le week-end, ou des choses comme ça. » Bon. Et bien, je crois qu'il est extrêmement important que cette radio existe. Et donc, pour ça, ben, il n'y a pas de secret, il faut la soutenir. Et donc, j'encourage vraiment les auditeurs qui l'apprécient à lui donner les moyens d'exister pour qu'elle puisse rejoindre des gens qui n'ont que cet outil-là, ou parmi les seuls outils, en tout cas, pour être reliés à la communauté chrétienne et à la communauté diocésaine.
Merci beaucoup, Monseigneur. À la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous nos auditeurs.